France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir la plus grande vedette populaire française, celle dont le nom résonne partout, d'Allemagne au Japon et d'Italie en Russie. Mireille Mathieu est mon invitée pour la sortie de son nouveau disque Mes Classiques. Nous en profiterons pour évoquer son extraordinaire carrière, ses complices musicaux de Maurice Chevalier à Paul Anka et d'autres sujets encore. Mireille Mathieu ce matin sur France Musique, mais pour commencer en ces jours un peu sombres, un petit rayon de soleil musical.
I'd be lost without you. You're the starch in my collar, you're the lace in my shoe. You will always be my necessity. I'd be lost without you. Most men tell love tales and each phrase dovetails. You've heard each known way. This way is my own way. You're the sail of my love boat, you're the captain and crew. You will always be my necessity. I'd be lost without you.
Ah oui, j'adore l'orchestre de Jack Hilton qui fut le meilleur orchestre entre jazz et divertissement en Angleterre dans les années 1920-1930. Et puis j'aime bien aussi la voix au perché de ténor de Sam Brown dans cette chanson intitulée « You're the cream in my coffee ». Tu es la crème, dans mon café.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous allons sans plus attendre retrouver mon invité, et faut-il vous le dire, ça fait des années que je rêve de l'avoir à côté de moi à ce micro. L'occasion s'est présentée récemment avec la sortie de ce disque dans lequel elle revisite ses classiques, ceux qui ont bercé son enfance, ce qu'elle a elle-même réinventé avec le parolier Claude Lemel. L'occasion était trop belle pour qu'elle vienne ici donc nous raconter sa vie en chanson. J'ai la joie d'accueillir ce matin Mireille Mathieu.
Lies at sea in die Boote dahin, ich träume mit dir vom Glück. Über uns die Sterne verglühen, die Herzen sind voll Musik. Schöner als die Liebeslieder heute im Mondenschein, soll für uns die wahre Liebe für ein Leben sein. Die Barcarolle klingt, wir vergessen die Zeit und hören, was sie singt, wenn sie für uns allein ein Märchen erzählt. Ein Märchen erzählt. Leise ziehen die Boote dahin, ich träume mit dir vom Glück. Über uns die Sterne erglühen, die Herzen sind voll Musik. Ich vergesse sie nie. Lass mich nie, Traummelodie, bleib bei mir, Melodie, bleib bei mir, bei mir.
Bonjour Mireille Mathieu.
Bonjour Benoît.
Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui avec Jacques Offenbach et sa barcarolle. C'est vous qui avez choisi ce morceau dans votre nouveau disque?
Je l'ai choisi. Alors, si on a l'opportunité d'en parler plus longuement, je expliquerai pourquoi j'ai choisi toutes les mélodies.
Tout le programme, c'est vous qui l'avez conçu.
Oui, voilà. C'est moi qui ai choisi chaque chanson. Je dois dire que ce CD, ce double vinyle est dédié à ma petite maman. Alors, ça a un rapport aussi avec ma maman. Donc, j'aurai l'opportunité d'en parler.
On va en reparler bien sûr, mais ça m'amusait de commencer avec Offenbach parce que tous nos auditeurs adorent Offenbach.
C'est beau, c'est gay, c'est...
Oui, c'est plein de mélancolie en même temps et d'émotion. Mais surtout, vous avez choisi une version en allemand, ce qui nous interpelle un peu.
Ça vous interpelle, Benoît. Je trouve c'est magnifique, la langue allemande est une très très belle langue.
Et Offenbach
était né à Cologne.
Absolument.
Et il est mort en France. Il a beaucoup composé, il a vécu beaucoup en France. Et quand j'ai dû choisir, je trouve que la barcarolle, c'est l'opérette, c'est l'opéra comique, et c'est plein de chaleur. C'est l'opérette, c'est autre chose.
Alors, comme dans cette émission, moi j'aime bien qu'on raconte un petit peu comment sont faites les chansons, comment sont faits les morceaux.
La genèse de chaque chanson.
Vous avez travaillé avec votre chef d'orchestre à Prague.
Quand je dois peut-être vous expliquer mes débuts. Oui. Mon enfance a été bercée par l'opéra.
Oui.
Alors, j'ai été bercée par l'opéra et c'était un rêve d'enregistrer des mélodies classiques. Mmh. Et j'ai eu l'opportunité en 2015, c'était dans ma tête, de pouvoir le faire. Et j'en avais parlé à ma maman parce que ma maman est tombée malade. Et donc, je lui ai dit, maman, je vais faire un CD des mélodies classiques. Je sais que tu aimes bien la romance de Maître Patelin, ça je le ferai. Et j'ai fait pour ma maman aussi l'achat de Handel. Et puis après, il a fallu choisir. Ouais. Mais quand ma maman est partie de ce monde, j'étais dans un tel état que la musique classique a été une thérapie pour moi importante. Parce que j'étais dans un tel état, quand on perd déjà une maman et on perd quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Et ça a été bénéfique pour moi.
Et alors donc vous avez enregistré avec un chef d'orchestre
Alors il faut que je vous explique après. Bon, j'étais en Avignon de janvier à juin. Et après quand je suis montée, comme on dit chez moi, je suis rentrée chez moi à Paris.
À Neuilly.
À Neuilly, où j'habite avec ma sœur Mathilde, qui est mon manager. Ouais. Nous avons écouté des mélodies pour choisir qu'est-ce qu'on allait enregistrer. Donc on a choisi certains thèmes, dont la barcarolle et beaucoup d'autres. Et aussi accompagné de mon professeur d'allemand, de latin, d'anglais, parce qu'il faut dire oui, que ce CD dans
c'est dans différentes
langues.
Oui, absolument.
Et donc, on a travaillé, on est rentré en studio pour faire des maquettes, pour pouvoir après juger ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, les tonalités. Moi aussi, comme je chantais dans les langues différentes, bien sûr, pour progresser, pour m'entendre. Donc, après, on a jugé, et c'est Thierry Bien-Aimé, qui est mon chef d'orchestre. Et quand on a jugé, nous sommes partis en février 2017, enregistrés à Prague avec l'Orchestre Symphonique de Prague, dirigé par Jérôme Kuhn.
Voilà, et ça donne ce disque dont on va évidemment reparler aujourd'hui. Ça s'appelle Mes Classiques. C'est votre nouveau disque, Mireille Mathieu.
C'est mon choix, c'est
Mireille
Mathieu.
On en parle déjà partout.
Oui, qui est numéro un, qui est numéro un.
Qui est numéro un. Et en plus, on est vraiment content de vous accueillir ici parce que cette grande maison de Radio France où on est aujourd'hui...
Ah, ça me rappelle de bons souvenirs.
N'est-ce pas ? Vos débuts, vos tout
oui,
débuts.
Oui, quand j'ai commencé un 21 novembre 1965 au Jeu de la Chance, présenté par Roger Lansac, voilà. Une émission de Raymond Marc.
Et c'était ici, voilà,
ici.
Au studio 102. Voilà, beaucoup de souvenirs. Alors, vous avez parlé de votre maman. On peut peut-être, on va remonter dans votre enfance avec une musique d'opéra encore qui évoquera peut-être plutôt le souvenir de votre papa.
Quale più malvento, cosa basta soldi per Piero? Sempre una babilella da provviso, il pianto e il riso nel sogniero. La donna è vampir, qual più malvento, cosa
Un enregistrement de Caruso qui a été refait d'ailleurs avec un orchestre d'aujourd'hui, mais on a gardé la véritable voix de Caruso.
Sublime voix, on sent le soleil de Naples. Voilà. De Naples, c'est superbe.
Et
c'est
le soleil d'Avignon faisait que votre père adorait chanter aussi
mon papa, oui,
l'opéra.
Mon papa avait une voix d'opéra. On était bercés par Tosca, par Carmen.
Werther. Etc. Mais ça veut dire il chantait tout le temps ?
Tout le temps. Mon papa chantait, il aimait chanter. Nous, on l'écoutait. Oui, il aimait chanter comme parler, respirer, tout à fait.
Et dans la vie de votre famille, quand vous étiez petite, la fille aînée, on rappelle, de 14 enfants,
oui,
etc.
Je suis née de 14 enfants, nous sommes 7 filles, 7 garçons.
7 filles, 7 garçons. On écoutait beaucoup de musique. Il y avait la radio qui tournait, un vieux poste de radio.
On avait aussi le vinyle, les disques, évidemment. Oui. Alors, mon papa, évidemment, l'opéra.
Et votre maman
Ma maman aussi. Alors, je dois vous dire que mon papa était typiquement... ténor physiquement et palmiol, vous voyez, parce qu'il était né en Provence. Ouais. Et ma maman était née dans le nord de la France.
C'est
elle
vrai,
était
vous êtes un mélange de ch'ti
voilà.
Et de méridional,
et alors,
c'est
mon papa avait tendance un petit peu à oublier les paroles. Alors ma maman, elle avait une mémoire extraordinaire. Je crois que je ressemble là à ma maman. Et quand elle sentait qu'il allait oublier une parole, elle le devançait et elle lui disait les textes. Et mon papa continuait à chanter.
Et vous croyez que c'est ce père, toujours en train de chanter, qui a secrètement une influence sur le fait que vous soyez devenue chanteuse, ou c'est plutôt simplement
non,
la découverte?
Non, je crois que c'est le bon Dieu. Je pense que c'est le bon Dieu qui me l'a donné, puisque je suis née comme ça. Je chantais toute petite à l'église, à l'école, comme chansons des comptines d'enfants. Mais toute petite, puis après, bon, j'écoutais comme ça la radio, et mon papa chantait.
D'ailleurs, j'ai noté parmi les premières choses apparemment que vous avez chanté, on cite toujours évidemment Piaf, mais il y a aussi une chanteuse qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Maria Candido. Vous aimiez bien ces chansons.
Oui, hein. J'avais interprété ça à Avignon. Il y avait des radios crochets, mais dans les quartiers.
Oui, c'est ça.
Et donc, j'avais interprété une de ces chansons. Et
elle nous a quitté l'an dernier.
Ça n'a pas marché. Et puis donc, après, j'ai fait... Je suis quand même quelqu'un de très pugnace. Je sais ce que je voulais. Et je l'ai fait une deuxième fois, c'était mieux. Puis après, une troisième fois, j'ai gagné.
Oui, ça n'a pas marché du premier coup.
Oh non, bien sûr, mais c'est bien. C'est très bien, il faut le dire en plus.
Voilà, et on connaît, alors évidemment, comme la façon dont vous avez croisé dans ses débuts, Michel Thor, Georgette Lemaire, etc.
Moi, je n'ai croisé que Michel Thor, c'était à Avignon.
À Avignon,
mais
puis Georgette Lemaire à Paris.
La chance, voilà. C'est Georgette Lemaire.
Voilà, exactement. Et tout d'un coup, vous êtes devenue une star, on peut dire, du jour au lendemain, quasiment.
J'ai eu la chance d'avoir le plus grand manager qui était Johnny Starr. C'est lui qui m'a faite. Hein. Je dois le reconnaître. Après, le public, c'est le public qui décide.
Mais vous avez réalisé ce qui vous arrivait ce jour-là où vous étiez ici à la maison de la radio, au studio 102.
Non, pour quand télé j'étais dimanche. Au studio 102, j'ai vu une boîte qui était la caméra et je me suis dit. D'abord, on a répété. Je me dis, il y a papa, maman et les voisins qui me regardent.
Ah, voilà.
Et voilà, je me suis vraiment captivée par cette boîte en pensant que maman et papa m'ont regardé, les frères et sœurs. Et je n'osais pas trop parler parce que je dis, moi, ils parlent pointu, ils ne parlent pas comme moi. Alors, j'ai été très intimidée.
Voilà. Il y a une autre chose qui est assez rare pour une artiste de votre génération, Mireille Mathieu, c'est que vous avez chanté à l'Olympia, par exemple, avant même d'avoir enregistré votre premier disque.
Je vais vous dire, je fais beaucoup de choses avant. Donc voilà. Quand j'ai gagné, je rencontrais d'abord mon manager, à qui je vous ai dit,
oui,
je dois
Johnny
tout.
Stark, bien sûr.
Et il m'a dit, mademoiselle, il faudra beaucoup travailler. Je dis, oui monsieur. Mais je ne pensais pas que c'était aussi dur que ça. Parce que c'était 24 heures sur 24. Et il a rencontré mes parents, donc après j'ai commencé à travailler. Il m'a trouvé un chef d'orchestre, qui était Paul Mauriat.
Paul Mauriat, on va en reparler tout à
l'heure. Et puis après, il a fallu m'habiller sur mesure, si je puis dire. Mais avant d'être habillée sur mesure, je suis partie à New York. J'ai fait le plus grand show des États-Unis,
Ed Sullivan.
J'ai été connue aux États-Unis par cette très grande émission. Et puis après, j'ai rencontré Maurice Jarre, avec qui j'ai travaillé, j'ai enregistré Paris en colère. Et donc après, à Paris, j'ai été à l'Olympia, en levée de rideau, en 65, en décembre, au spectacle de Sacha Distel. J'ai interprété trois chansons. Et ça a été extraordinaire parce que Sacha était là, il n'était pas obligé d'être à 9h quand le spectacle commençait. Il était là aux petits soins, me rassurer, mille recommandations. Mais aussi, il faut que je vous dise, quand j'ai gagné, mon manager a souhaité, à juste titre, que je parte aussi en levée de rideau du spectacle d'Hugo Frey. Donc j'ai interprété trois chansons pour me familiariser avec la scène, pour faire mes classes et le public. Parce que bon, j'ignorais tout de ça, je chantais, mais... Et aussi la même chose, Hugo Frey aussi était là, c'est quelqu'un aussi d'adorable comme Sacha. Donc, mais on ne fait plus ça maintenant.
Non.
Je crois que maintenant, les artistes sont propulsés, ils ne font pas leur classe. Moi, j'appelle faire mes classes, ce qui est normal. Trois chansons, après petit à petit, mais là, ils sont obligés... Qu'est-ce qu'ils
tout
font ? Ils sont obligés de prendre des reprises, on n'a pas son propre répertoire. Et aussi, surtout... Il faut travailler, il faut trouver le bon professeur de chant, il faut faire des vocalises. C'est une discipline que j'applique depuis mes débuts et maintenant.
Alors, on va y revenir, évidemment, à ce travail, mais on va écouter, vous l'avez évoqué tout de suite, cette magnifique chanson du film Paris brûle-t-il, chanson de Maurice Jarre.
Et Maurice Vidalin pour le
et
texte.
Et Maurice Vidalin pour le texte, avec l'orchestre de Paul Mauriat. C'est un de vos, pas le premier, mais un de vos premiers très, très grands succès, oui. Mireille Mathieu.
Il faut voir les pavés sauter.
si rouillé qui cligne de l'œil aux fenêtres sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau ou ses mains nues. La vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu. Mais on pourra se présenter là une fleur au chapeau. On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre, 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 vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le monde tremble quand Paris est en danger. Et le monde chante quand Paris s'est libéré. C'est la fête à la liberté. Et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser. Il a retrouvé la lumière. La tempête, après la peur et le froid, Paris est en fête et Paris pleure de joie.
J'ai vu ce petit chou-là à la télévision là-bas quand elle a passé. Quand elle a passé avec Ed Sullivan. Mmh. Ah, je l'avais vu à Paris. Je l'avais vu à Paris chanter à l'Olympia dans le spectacle de Distel, n'est-ce pas? Et j'avais été séduit, comme tout le monde, comme les critiques, comme le public et comme tout cette espèce de bombe qui est sortie à ce moment-là avec la révélation de cette gosse-là, n'est-ce pas? Et elle était tellement mignonne. Et cette voix fraîche, forte, gaie, car elle n'a pas du tout une voix triste. Elle n'a pas du tout plus une nature triste. Elle n'a pas du tout une nature triste. C'est une gosse qui vient à conte de fées, n'est-ce pas? Qui n'a jamais été malheureuse dans sa famille, qui n'a jamais vécu dans le vice, qui n'a jamais vécu dans la perversité, et qui vient en ce moment à conte de fées. Moi, je pense qu'avec un tout petit peu de bon vent, bien conseillée, bien aidée dans la direction qu'elle prendra, elle est faite pour devenir une petite reine populaire. Il y a aucun doute. Elle a tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut du destin.
Vraiment, je suis émue de ce que vous avez dit. Ben vraiment, oui, c'est vrai. J'aurais pu parler.
Je suis peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises des bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace où le soir je retrouve mes poteaux. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse les hommes. Je le crois, fondu sous. Pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi.
Alors, on l'a compris, c'était le grand Momo qui parlait de la petite Mimi
Monsieur
à ses
Maurice
débuts.
Chevalier. J'ai eu la chance d'avoir un parrain comme Maurice Chevalier.
C'est extraordinaire
quand même. Grand monsieur. Il m'a présenté au Waldorf Astoria. Ce grand monsieur avec un pianiste. Interprétant son propre répertoire en anglais avec cet accent.
Oui, très français.
Très français. En fin de compte, je ne sais pas si on le sait, enfin moi je le sais, beaucoup de gens le savent, mais il faut toujours le redire que Monsieur Chevalier, ouais, c'était la France dans le monde entier,
oui,
au même
vrai
titre que la Tour Eiffel.
Oui, c'est vrai.
Donc, Il a fait beaucoup de films aux États-Unis, il vivait en France. Et quand il parlait que de ce métier, il vivait que pour ce métier. Avec, j'étais pleine de respect, d'admiration. Je l'ai vu chez lui, j'ai vu à New York, c'est quelqu'un...
Bah, vous vraiment... vous rendiez compte de la chance que vous aviez d'être parrainé par ce grand chanteur,
oui, vraiment,
Mathieu.
C'est cette chance-là, exactement, parce que c'est un modèle. Oui. Un modèle, et souvent il disait, j'ai le respect pour le public. Il avait quelque chose que, bon, je ne sais pas si ça existe maintenant, mais vraiment, j'étais comme une petite fille devant lui, l'écoutant, plein de recommandations. C'était vraiment un très grand monsieur.
Alors c'est drôle, parce qu'il dit dans cette interview, et il voit juste finalement que vous avez une voix gaie, une voix du bonheur, de l'amour aussi. Et c'est intéressant parce que vous, vous étiez mise à vos tout débuts plutôt dans la catégorie réaliste. On vous associait à Piaf, que ce sont des chansons sombres, et en fait, vous n'êtes pas une chanteuse sombre.
Quand j'ai commencé au jeu de la chanson, on en a parlé tout à l'heure, je n'étais qu'interprète, donc j'ai interprété ces chansons. Oui. Je me souviens, la première des chansons que j'ai interprétées, c'était Jézébel. Oui. Jézébel! Je ne mets pas donc de chansons, mon propre répertoire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on m'a habillée sur mesure. Oui. Et il faut dire que cette émission de Roger Lanzac, c'était le public qui décidait.
Ouais,
il n'y avait pas un jury, c'était le public qui appelait en direct. C'était l'émission en direct. On souhaite que telle personne revienne le dimanche après, ce qui a été mon cas.
En tout cas, oui, Chevalier a vu ce côté aussi d'une chanteuse qui n'est pas une chanteuse des malheurs de la vie, quoi. Ce que vous n'êtes pas, vous êtes plutôt une chanteuse de l'amour et aussi du bonheur.
Bien sûr, il a dit une chose fort juste, c'est un conte de fées. Le lendemain du jeu de la chance, il y avait tous les journaux, surtout François, le conte de fées de Mireille et Mathieu, en expliquant que mon papa était tailleur de pierre et que j'étais l'aînée de 14 enfants.
Alors aussi, on a écouté juste avant Paris en colère, évidemment, on a entendu ce déluge de cordes.
J'ai une anecdote pour ça, si vous le permettez. Dites-moi. Si on a suffisamment le temps. Donc, c'était Georges Craven qui organisait la sortie des plus grands films, dont Paris Brûle-t-il. Et je devais interpréter Paris en colère au deuxième étage de la Tour Eiffel. Ce qu'on a fait, heureusement qu'il y a toujours des répétitions, on répète et on s'aperçoit qu'on ne me voit plus parce que je suis tellement petite. Alors on a trouvé un bottin, on m'a monté et j'ai pu chanter « Que l'on touche à la liberté ».
Mais je parlais aussi de ces déluges de violon et d'accordéon, c'était le travail de Paul Mauriat.
Grand chef d'orchestre.
Il a été le chef d'orchestre de vos premiers disques.
Oui, et... je dois vous dire que mon manager a demandé à Paul Mauriat, il était le chef d'orchestre de Charles Aznavour,
oui. Et
lui a dit « Tu laisses, Charles, tu t'occupes que de Mireille. Vraiment, elle a besoin, donc c'est 24 heures sur 24, et il a fait ça jusqu'au bout. Et après, je rencontre aussi quelqu'un qui était très important dans ma vie, c'était Monsieur Francis Lay, qui nous a quittés dernièrement.
On va l'évoquer, parce qu'on est bien triste aussi de savoir qu'il n'est plus parmi nous depuis très peu de temps. Mais alors, on va vous retrouver d'abord, encore avec Paul Mauriat, dans un autre succès. Alors là, on avance encore d'un an, c'est La dernière valse. Belle chanson.
Oui, très belle chanson, oui.
Voilà. Et puis, on va l'enchaîner avec encore un autre succès. On avance encore un peu dans le temps avec un extrait aussi de Donne ton cœur, donne ta vie.
Ah oui.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, j'allais la blesser, j'ai cru soudain la voir pleurer. Elle m'a dit, tu veux me cueillir pour trouver un peu de bonheur. Il faut aimer, non pas détruire, il y a trop d'enfants qui pleurent.
Mathieu, grand tube de Mireille Mathieu, parmi tellement d'autres, hein, on va pas pouvoir tous les évoquer aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait des petits mixages pour en passer deux à la suite, mais j'aime bien. En plus, on est passé de Paul Mauriat à Jean Bouchetti, qui était aussi un grand arrangeur.
Un arrangeur, tout à fait.
Alors, justement, à propos de tous ces disques et de tous ces enregistrements, Mireille Mathieu, vous aimez bien le travail du studio, justement, cette rencontre autour d'un micro, des consoles, des musiciens, etc. Ou vous préférez plutôt le contact avec le public? C'est deux façons de faire de la musique assez différentes.
Enfin, vraiment, où on apprend son métier, où on est en communion avec le public, c'est sur scène. Et ça, alors, ça va la première des choses. Oui. Mais avant, quand on fait, surtout la première fois que j'ai fait un disque, donc c'est un travail minutieux entre un compositeur, un auteur, et c'est une complicité entre ce qu'on est, on choisit les textes, les mots, si
comment ça
colle
se passe
bien.
C'est chez vous, autour d'un piano
Moi, c'était chez moi, avec Paul Mauriat. Enfin, mes débuts, c'était avec Paul Mauriat. C'était André Pascal pour mon credo. C'est mon vraiment premier 45 tours, c'est mon credo. Et puis Francis Lai. Donc
vous vous retrouvez avec des bouts de musique, des bouts de
textes. Oui, on travaillait, on se rencontrait. Et après, c'était en studio. Après, en studio, c'est autre chose. Il y a le directeur artistique, le preneur de son, mon manager. Donc voilà.
Mais vous, votre manager, on sait qu'il a joué un rôle très important. Mais vous donniez souvent votre avis. Moi, je préfère ceci, je préférais cela.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis quelqu'un. On ne m'interdisait pas de parler. J'étais un peu timide pour le dire.
Oui, vous étiez jeune.
Mais je pouvais le dire, bien sûr.
Alors, avant de parler de Francis Lai, parce que c'est un grand personnage qu'on avait reçu avec beaucoup de bonheur dans cette émission il n'y a pas tellement longtemps, je reviens un petit peu à la chanson française. Bon, j'ai déjà cité Maria Candido, j'ai cité Édith Piaf, qui évidemment a été un modèle. C'est pour vous, c'est la plus grande.
Moi, je pense qu'elle est unique. Quand je pars de l'opéra, pour moi, c'était Madame Maria Callas. Et dans le domaine des variétés, c'est Madame Piaf. C'est le même style de sensibilité, d'émotion, de passion.
Oui. Et en même temps, c'est un modèle qu'on vous a peut-être un peu trop collé au début. Alors, vous avez eu besoin, à un moment donné, de vous en défaire aussi un petit peu.
C'est-à-dire que, comme j'interprétais ces chansons, forcément, on l'a dit. Et c'est pour ça que mon manager, je vous l'ai dit plusieurs fois, bien sûr, c'était utile qu'on m'habille sur mesure.
Voilà, qu'on vous habille sur mesure. Et alors, il y avait aussi d'autres aînés merveilleux. Je ne sais pas si vous les aimiez ou pas, dans un genre complètement différent de vous. Il y avait les Brassens, les Brel et toute cette génération de chanteurs.
Oui, alors j'ai eu la chance de les rencontrer tous les deux. Monsieur Brassens et Monsieur Brel. Oui. Non seulement ces deux grands artistes, mais la même simplicité, l'humilité. Oui. Georges Brassens, c'était parce qu'on appartenait à la même maison de disques, extrêmement gentil. J'ai chanté, interprété de ses chansons. Je ne l'ai jamais vu sur la scène de l'Olympia, mais au théâtre des Champs-Élysées, interprétant l'homme de la Manche.
Oui, la comédie musicale.
Oui, Don Quichotte. Hein. Oui, oui. C'est lui qui m'a consolée. J'étais dans tous mes états, je pleurais tellement. Parce que quand on le voit sur scène, c'est quelque chose. Hein. Oui. Et il m'a dit, pourquoi vous pleurez? Je lui ai dit, Monsieur Brel, c'est vous. Alors il m'a consolée. Bon, mon manager le connaissait depuis très longtemps. Monsieur Brel, quand on le voit sur scène, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire, c'est enfin qu'à dire... Oh là là,
Et puis alors, il y avait aussi les chanteurs de votre génération, mais qui étaient dans un style complètement différent, puisque c'était les yéyés. Mais vous avez eu quel genre de relation avec Johnny, avec toute cette bande-là? Vous avez fait enregistrer ensemble.
Oui, alors j'ai fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que mon manager, Johnny Stark, avant qu'il travaille avec moi, il avait tous ses artistes.
Et voilà.
Il était le manager de Johnny, manager de plusieurs artistes yéyés. Et puis quand je suis arrivée, il a dit « Bon, mais je laisse tout tomber pour m'occuper d'une petite inconnue. »
Ah voilà, c'était tout pour vous.
C'est-à-dire que c'était... Ah bah oui, il allait prendre quelqu'un qui connaissait pas ce métier, qui connaissait rien, qui avait tout à apprendre. Je dois vous dire que c'était un joueur. Et j'espère qu'il a gagné en fin de compte. Et voilà.
Mais donc, vous qui chantiez des grandes valses, vous aimez bien vous quand même le twist
Oui, bien sûr. Moi, mes goûts musicaux sont très éclectiques. Mais quand j'ai commencé, évidemment, comme je vous ai dit plusieurs fois... il a fallu donc m'habiller sur mesure et puis apprendre à rencontrer les auteurs. C'était vraiment du matin jusqu'au soir.
Alors il y a aussi donc ce musicien merveilleux, on l'avait rencontré ici dans son appartement studio tout près de la maison de la radio, qui avait écrit ses premières chansons pour Édith Piaf, qui jouait de l'accordéon, était Francis Lai.
Oui, alors Francis...
Vous l'avez connu comme accordéoniste d'abord.
Oui, il a été aussi mon accordéoniste, pardon. Donc on cherchait des musiques et il habitait Pigalle. C'était quelqu'un qui vivait la nuit. Alors nous sommes allés le voir et je vois, il était avec son accordéon et à côté une énorme lumière rouge. J'avais jamais vu ça, sauf sur les sapins de Noël, des toutes petites. Mais alors là, et il vivait comme ça et il chantait. Et quand on le voyait et quand on l'écoutait, on était captivés par sa façon de chanter, son émotion qui parlait, cette timidité qu'il avait, cette pudeur. Et c'était un très grand mélodiste. Et ouais, avec cet accordéon, il ne faisait qu'un. Et c'était vraiment, ça faisait partie de lui-même. Je le verrais vraiment toujours, c'est vraiment quelqu'un, un très très grand monsieur, comme tous les grands, humble, ouais, vraiment. Et donc, il m'a composé C'est ton nom, qui fait partie de mon premier 45 tours. Et après, Francis m'a accompagnée dans mes tournées. Et il a même composé Un homme et une femme pendant les tournées.
Pendant une de vos tournées, ah oui.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Alors, vous avez ensuite, donc en 1972, enregistré un disque tout Francis Lay.
Tout, hein, Francis Lay, oui, ça, voilà, a été un plaisir.
C'était vraiment un proche, on peut dire,
ah, oui,
Francis.
Ah oui, vraiment, c'est, hein, vraiment quelque chose, on était vraiment très amis, ça faisait partie de la famille, voilà, de mon clan, de vraiment, c'était quelqu'un, avant qu'il ne parte, il savait que j'allais faire un CD de mélodies classiques. Il m'a dit, dès que tu as fini, tu me le fais écouter en premier, je veux l'entendre, oui, je veux l'entendre.
Alors bon, bah écoutez, ça malheureusement il ne l'aura pas entendu, mais nous on va vous écouter tous les deux ensemble dans ce disque de 1972 où vous chantez un duo qui s'intitule La vraie vie.
La vraie vie, oui c'est ma vie, quand je la vis entre tes bras et j'ai envie, envie de toi. La vraie vie, je l'ai suivie au fil du temps pendant longtemps, mais ton amour n'a plus d'amour.
Mais pourtant je t'aime tant, je t'aime autant et plus qu'avant. Chaque jour change l'amour, il est toujours l'amour.
La vraie vie, c'était ma vie quand je croyais que l'on pouvait au jour le jour vivre d'amour. Ma vraie vie, c'était ma vie d'avant, mais le passé s'est effacé avec le temps.
Tu as peur pour ton bonheur, alors tu pleures comme une enfant. Tu voudrais pouvoir garder et posséder le temps.
Prends ta vie et vis ta vie, prends le printemps tant qu'il est temps. À chaque instant s'en va le temps. Je pleure en vain, je pleure pour rien, rien ne revient. Je le sais bien, je crois toujours que ton amour va s'en aller. C'est notre vie, hier est fini, demain est loin. Après la nuit vient le matin. La vraie vie, c'est notre vie. Il faut aimer sa vie, vivre sa vie. C'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie.
Ah oui, c'est Mireille Mathieu, d'entendre sa voix, hein, c'est, oui, c'était magnifique ce disque avec...
Avec Francis Lay, qui vient de nous quitter.
Quelle belle chanson.
Quelle belle chanson, qui date de 1972. Ah, mais j'ajoute quelque chose de plus joyeux, Mireille Mathieu. Vous savez, c'est assez rare, pendant que j'interviewe un invité, de voir autant de gens de Radio France, de France Musique, qui défilent dans le studio pour vous apercevoir, etc. Vous êtes une vraie vedette populaire, sans pareil presque aujourd'hui. Vous en rendez compte?
Je ne sais pas, non. Je profite de vivre de ce que je fais. J'ai la chance de vivre de ma passion.
Oui. Et j'en profite. Que ça vous a jamais grisé en même temps? Vous
non. Avez... non, 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 même parce que je n'ai pas eu le temps d'être grisée.
Ah voilà, vous travaillez tout ça s'enchaîne.
C'est-à-dire que chez moi, même maintenant, c'est 24 heures sur 24. Oui. Je suis une personne extrêmement disciplinée. Alors, ce qui me concerne, c'est faire des vocalises. J'ai une hygiène de vie différente.
Vous voulez que vous travaillez le chant?
Ah oui, toujours.
Tous les jours?
Toujours. Mon vocalise, oui, c'est indispensable.
Ah oui.
Si je voyage, je ne le fais pas.
Oui.
Mais ce matin, j'ai fait mes vocalises avant de venir
ici. Ce matin, vous avez fait vos vocalises?
Oui, bien sûr.
C'est pour ça que vous avez si bien chanté quelques notes tout à l'heure pour nous, pour nous en direct. Alors évidemment, quand on est une immense vedette, ça suscite aussi parfois des imitations, parfois un peu moqueuses ou ironiques. Ça vous a gêné ou fait souffrir?
Non, si
ça,
c'est
ou...
pas trop méchant, si c'est pas trop méchant quand même, c'est agréable. J'avais un grand ami issu du jeu de la chance, Thierry Luron, que j'aimais.
Il vous a imité, lui.
Il m'a imité. Ah ben moi, j'adorais Thierry. Alors ça, c'est superbe d'être imité. Ça prouve qu'on existe et que bon, moi ça me plaît au contraire.
Bon, alors ça, c'est un point. Et puis l'autre point, c'est la question du trac. On a pas l'impression que vous êtes quelqu'un de très traqueur.
Si. Oh là là, plus je vais dans ce métier, plus j'ai la trouille et plus j'ai le trac.
Ah bon.
Alors là, ça, pour moi, ça c'est venir... Je vais toujours 4 heures au théâtre. Alors je vais saluer toute l'équipe. Et puis après, je vais dans ma loge, commence à maquiller, je fais le vocalise. Après, il y a une balance avec mes musiciens, je fais mes vocalises. J'ai besoin d'aller me recueillir au théâtre, de voir le théâtre, de m'imprégner, de sentir.
Ouais.
Et après, alors je claque des dents. Après, avant d'entrer en scène, je fais le signe de la croix. Voilà, vous savez.
Toujours ça. Hein.
Toujours, toujours.
Vous êtes une bonne chrétienne.
Tout à fait.
Voilà, ça ne vous a jamais quitté
cette jamais,
foi.
Non, hein. Jamais, jamais.
Et par ailleurs, vous avez aussi, pour pouvoir faire tout ce que vous faites, une hygiène de vie, on pourrait dire.
Oui, c'est ce que je disais. J'ai une hygiène de vie, c'est-à-dire...
Vous ne buvez que de l'eau, vous mangez diététique.
Diététique, mais enfin, j'apprécie quand même de temps en temps du Bordeaux ou du champagne, quand même.
Bon,
je ne sais pas du tout. Vraiment quelque chose d'austère. Mais c'est vraiment une poisson, une légume, yaourt, aux brebis, je fais très attention. En plus, je suis une toute petite personne, alors donc, je fais attention à ma ligne aussi.
Alors on va écouter une autre chanson que j'aime beaucoup et que nos amis de la discothèque de Radio France adorent aussi et qui m'ont dit qu'elle n'avait pas été rééditée en CD, on n'a pas vraiment vérifié. C'est la chanson de l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune.
De Michel Legrand, un film de Claude Lelouch.
Voilà, une très bonne chanson qu'on écoute maintenant de 1973.
Chaque matin, on lit des trucs vraiment bizarres. Articles de fond ou potin, hold-up savant, flagrant délit, crème ou bagarre. Tous les matins, un fait divers, extraordinaire à la une, vient bousculer notre univers lorsqu'on apprend qu'un homme marche sur la lune. Le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune, c'est toi et moi, la main dans la main, marchant sur le même chemin. À la radio, une voix d'ange commente les embouteillages. Aux informations, le temps change pour parler météo, politique ou sondage. Toutes les heures, un fait nouveau fait rêver Paris ou Pamplune. Descendu de son Apollo, à papeterie, un homme marche sur la lune. Mais l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune, c'est toi et moi, la main dans la main, marchant sur le même chemin. On voit de jolies speakerines en noir et blanc ou en couleur, fardées vêtues, coiffées comme des figurines. Tous les soirs, elle nous propose un face-à-face, une tribune. L'événement, entre autres choses, c'est qu'aujourd'hui, un homme marche sur la lune. Mais l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune, c'est toi et moi, la main dans la main, marchant sur le même chemin. Mais l'événement le plus important, plus passionnant que de vouloir la lune, c'est toi et moi, la main dans la main, marchant sur le même chemin.
Vous vous écoutez avec attention, j'écoute Mireille Mathieu.
Exactement, religieusement, on reconnaît bien l'écriture Michel Legrand, tout à fait. Oui. Et comme Francis Lee, on reconnaît bien son écriture. C'est deux grands qui ont eu des Oscars. Et j'écoutais parce qu'il y a très longtemps que je ne peux réécouter.
Et puis il y a votre voix aussi qui porte ça merveilleusement.
C'est une très belle écriture, c'est vrai, que ce soit Michel ou Francis.
Et des paroles de Jacques Demy.
Oui, de Jacques,
en plus,
sûr, c'est
pour ce film dans lequel Mastroianni tombait enceinte de Catherine Deneuve. Voilà,
ça.
Exactement. Mireille Mathieu, on est très heureux de vous recevoir ce matin sur France Musique. Et tiens, je voudrais qu'on évoque, évidemment, on ne peut pas ne pas le faire, un peu l'importance extraordinaire de votre carrière à l'étranger.
À propos des personnalités françaises qui symbolisent le mieux, selon les soviétiques, la France, 38% répondent François Mitterrand, 18% Mireille Mathieu et 9% Jacques Chirac. Bref, la divine surprise pour notre Mireille nationale. Écoutez ce qu'elle m'a dit.
Je suis ravie d'être entourée de notre président et de monsieur Jacques Chirac. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui représentent notre pays, mais je suis fière d'être citée en deuxième.
Quand vous allez en Union soviétique, vous chantez en russe ?
J'ai chanté en russe le ton du muguet. Le public est bouleversant, c'est un public extraordinaire. Je souhaite à tous les artistes d'avoir un public comme ça. Je chantais tous les soirs devant 20 000 personnes. Nous étions 200 sur scène, les chœurs de l'armée rouge et un grand orchestre de Moscou.
Diriez-vous que les soviétiques aiment les Français ?
Oui, vous savez, c'est une coutume après chaque chanson là-bas en Union soviétique. On vous offre beaucoup de fleurs et les fleurs pour eux c'est très très cher. Et après chaque chanson, ils venaient, donc j'avais beaucoup, beaucoup de fleurs. J'ai vu même un petit garçon qui est venu vers moi en me disant « je vous aime ». C'était merveilleux, j'avais les larmes aux yeux après ça.
Et ça, c'était en 1987, Mireille Mathieu. Vous rendez compte, êtes...
Mon deuxième voyage, là, à l'époque,
là,
c'était
l'Union soviétique, absolument.
Et maintenant, je vais très, très souvent. J'aime le peuple russe, j'aime la Russie, quel beau pays.
Vous vous rendez compte, vous êtes un peu moins connu que Mitterrand, mais plus que Chirac, quand même.
On mesure
ce que vous représentez, quand même, pour la France dans le monde.
C'est un pays extraordinaire, vraiment. Je chante un peu plus de chansons en russe, mais c'est un pays qui est très
musique,
érudit,
d'abord.
Qui aime la musique, oui. Comme tous les Slaves.
Ouais.
D'ailleurs, dans mon dernier CD, je chante le premier Regard d'amour, c'est de Tchaïkovski, le concerto numéro 1, en russe,
en russe et en
français. Le texte est de Claude Lemel et en russe, c'est de Mikhail Chabrov. Vraiment, j'adore ce pays. Ma maman adorait la Russie. Et à 94 ans, je lui avais appris quelques mots en russe. Elle parlait aussi en russe avec nous. C'était...
Et vous avez vu aussi toute la transformation de cette
société exactement.
Depuis
la période
communiste jusqu'à nos jours.
Mon premier voyage était en 67. La deuxième fois, c'était en 76. Je chantais sur la scène du Bolchoï. C'est la première fois qu'un artiste venait chanter sur la scène du Bolchoï. La troisième fois, c'était en 87. Avec les chœurs de l'armée rouge. Les chœurs de l'armée rouge, c'est le cœur de la Russie, c'est la Russie même. C'était vraiment un honneur et un privilège de chanter avec
Alors, ça, c'est une de vos histoires d'amour. Il y a une autre histoire d'amour très importante avec l'Allemagne.
Bien sûr, avec l'Allemagne. En même temps, l'Allemagne et la Russie.
Ça a commencé en même temps, ça s'est développé en même temps,
en même temps. Oui, ça fait. Alors, je parle plus souvent en Allemagne, je parle plus l'allemand que le russe.
Oui.
Ce sont deux très belles langues. Et quand on chante du classique, chanter Handel, Offenbach ou d'autres, c'est magnifique. Ou mon propre répertoire, évidemment, en langue allemande.
Mais ça n'est pas tout, Mireille Mathieu. Il faut dire que les Français ne se rendent pas toujours compte de ce que votre rayonnement dans tous les pays du monde et ce que vous représentez pour la chanson française, aussi en Italie, aussi au Japon, etc. etc. Mmh. L'Italie, par exemple.
L'Italie, j'ai fait une tournée, j'ai chanté à San Remo.
Oui.
Et j'ai appris une chose dernièrement parce que je ne le savais pas. J'ai eu la chance d'assister à l'ouverture de la Coupe du Monde au football. C'était Russie-Arabie Saoudite.
Oui.
C'était extraordinaire, l'ouverture. Je chantais, évidemment que j'étais pour la Russie. Allez, j'ai chanté l'hymne russe. Parce que j'avais chanté aussi la Marseillaise. J'ai chanté l'hymne russe. Et donc, on a été merveilleusement reçus. Et j'avais donc des places aussi pour la finale. Et je n'ai pas pu assister à la finale. Et... nos Français ont été super brillants. J'ai chanté la Marseillaise chez moi. J'ai chanté Allez la France et tout. Et ce que je voulais vous dire, c'est que comme la France avait gagné, et dernièrement, une amie italienne m'a dit, en Italie, à la télévision, ils m'ont pensé chantant la Marseillaise.
Ah oui, voilà, pour voilà, représenter la victoire de la
un
France.
Un petit clin d'œil.
Vous avez même eu un entretien privé avec le pape, Mireille Mathieu.
J'ai rencontré le pape Jean-Paul II 3 fois. La première fois, c'était pour une œuvre de charité. Oui. Et la deuxième fois, c'était une rencontre privée avec ma petite maman.
Et comment ça s'est passé alors?
Ma sœur Mathilde et moi-même, ça s'est passé très simplement et c'était extraordinaire dans une salle privée, bien sûr, face au Saint-Père. Et quand il a vu ma maman, parce que pour lui, il avait perdu sa maman très jeune, le Saint-Père, il a dit « Ah, la maman », il a embrassé ma maman 2 fois.
Ah oui.
Il s'exprimait très bien en français. Et c'était quelqu'un, je crois que c'est le personnage qui m'a le plus impressionné par ça, non seulement cette force et ses yeux. Quand il vous regardait, il avait un aura, cette grâce que seul Dieu donne à une personne. Et lui, il avait. Et j'ai eu cette chance-là, vraiment. Et j'ai même des photos signées de sa main. C'est vraiment le personnage qui m'a le plus impressionné.
Alors, on reste en Italie avec un immense musicien qui continue encore aujourd'hui de nous étonner, bien qu'il soit fort âgé, c'est Ennio Morricone.
Ennio, bien sûr, j'ai travaillé avec
Ennio. Ah, vous l'appelez Ennio, carrément.
Ah, bien sûr, on a travaillé 2 mois, 3 mois ensemble à Rome. J'ai travaillé avec lui. Ça aussi, comme tous les grands, une simplicité, une gentillesse, c'est vraiment... Et aussi, on apprend chaque fois. Quand on travaille des grands auteurs, des grands compositeurs, on apprend toujours.
Mais comment ça s'était fait? Ça, c'était Johnny Stark ou
Oui, je crois que c'est... Ah oui, c'est tout à fait Johnny Stark qui connaissait quelqu'un qui travaille avec Ennio en lui demandant est-ce que Ennio pourrait faire un disque avec Mireille. Ennio a dit oui, donc j'ai fait... On a enregistré, on a travaillé, on s'est rencontrés bien sûr pour les tonalités, pour travailler l'italien. Donc pendant 2 mois, nous avons travaillé ensemble.
Voilà, c'était un disque de 1974 et dans lequel quand même, il faut préciser, Ennio Morricone a même écrit,
oui,
des titres spécialement pour
vous.
Pour moi,
tout voilà. À fait, oui, c'est vrai.
Comme celui-ci qui s'appelle La Donna Madre.
Oh, magnifique chanson.
Quelques aspects du répertoire international de Mireille Mathieu.
Mon premier titre en langue allemande était Hinter den Kulissen von Paris. C'était Paris. Donc ça signifie derrière les coulisses de Paris.
Ouais.
Et là, c'est un dimanche en Avignon.
Alors, on précise, parce que c'est très intéressant, Mireille Mathieu, on ne le connaît pas forcément très bien en France, mais j'évoquais les grands arrangeurs, les grands chefs d'orchestre, compositeurs. En Allemagne, vous avez un partenaire musical privilégié qui a écrit d'ailleurs cette chanson, je crois, qui s'appelle Christian Brun,
oui.
Qui est un grand musicien très important en Allemagne.
Oui,
hein.
Quand j'ai commencé, donc, il faut vous dire que quand j'ai commencé à chanter en français, j'ai fait une tournée d'abord en français en Allemagne, et puis après j'ai vu que bon, le public, mon manager a vu que le public m'aimait énormément, donc je souhaite chaque fois que je vais dans un pays, essayer de chanter dans la langue du pays, oui. De parler dans la langue du pays, parce que le public est sensible, et donc en l'occurrence en Allemagne, j'ai rencontré Christian qui m'a vraiment. Alors, il m'a fait tous les tubes que j'interprète, je le dois à Christian.
C'est toujours Christian Brun. Parce que vous avez des tubes dans certains pays qui n'ont pas eu de version française.
Non, bien sûr. Si. Par exemple, Santa Maria de la Mer,
oui.
Je l'ai chanté d'abord en allemand, langue allemande, voilà. Et après, c'est Santa Maria de la Mer en français.
Voilà, mais quelquefois, ça vient d'un autre pays et voilà. Ça arrive en France après.
Voilà, exactement.
Voilà. Et cette chanson, alors, sur Avignon, Un dimanche à Avignon, c'est un grand succès là-bas.
Grand succès, oui.
Voilà. Une des langues que vous parlez, vous en utilisez combien de langues dans la chanson?
Dans le dernier CD et vinyle, mes classiques, 7 langues.
7 langues. Et mais certaines que vous ne pratiquez que phonétiquement.
Oui, bien sûr. Par exemple, le russe, c'est phonétique.
Oui. Alors, on va aussi évoquer une autre partie du monde. On a commencé d'ailleurs un petit peu avec cela. C'est les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord. D'abord, il y a eu ce Ed Sullivan Show à vos débuts. C'était quoi d'ailleurs cette émission exactement?
C'était le plus grand show. Ouais. De variété, c'était aussi le dimanche, on présentait des artistes. Moi, j'étais toute la petite inconnue qui arrivait de France. Et on m'a présenté. Ça a été super quand j'ai chanté. Voilà, donc.
Et vous êtes retournée ensuite assez régulièrement.
Oui, j'ai fait des disques avec Paul Anka.
Voilà, c'est là que je veux en venir, justement.
Donc, on a fait un CD ensemble.
Comment ça s'est passé, la rencontre avec Paul Anka?
Paul, c'est quelqu'un qui est très décontracté.
Ah oui.
Il m'a écrit donc des musiques, il fait des textes, parce que c'est lui qui a fait My Way. Donc, les textes, on a travaillé, choisissant les textes. Il y avait aussi Eddy Marnay pour le français, parce qu'en même temps, Eddy Marnay, grand auteur aussi,
très important,
était avec nous à Los Angeles. Ah oui. Et donc, en même temps, il écrivait le texte français et on a écouté, on a choisi les chansons, puis après on a enregistré.
Voilà, d'ailleurs, on pourrait peut-être en écouter un peu de.
Si vous voulez,
un duo
plaisir.
De Paul Anka et Mireille Mathieu.
Ah, si tu pouvais vivre avec moi.
Ah, si tu pouvais rire avec moi comme avant, quand on découvrait Paris sous la pluie
et quand on rêvait de Californie, je voudrais te dire à tout à l'heure.
Écrire des chansons sur le bonheur comme avant.
Retrouver le temps que nous n'avons plus. Être les enfants qu'on ne sera plus.
Bébé, I love you. N'est pas fini pour nous.
Baby, I love you. Et je crois toujours en nous.
Tu viens de sourire en m'écoutant comme avant.
Je parle du cœur et tu m'entends.
Allons trouver
la Californie.
Voilà une vraie déclaration d'amour.
Oui,
hein,
oui. Il chantait grand talent et il chantait très bien français parce qu'il était d'origine
canadienne,
libanaise. Sa femme était française, donc je connaissais toute sa famille, tout. C'était un plaisir de travailler avec Paul aussi. C'est, voilà, Paul, c'est toujours très enrichissant, les duos, les rencontres que l'on fait. J'ai eu l'opportunité, avec les Cholet Carpentier, de faire différents duos avec des différents artistes. Et c'était super, avec Tom Jones, avec Rolio, avec Johnny et Michel Sardou, tous ces duos, c'était super.
Alors c'était l'époque d'ailleurs où on vous voyait beaucoup à la télévision française. Aujourd'hui, parfois on pourrait avoir l'impression qu'il y a un petit décalage entre votre carrière extraordinaire à l'étranger puis l'impression qu'en France on vous regarde quelquefois un petit peu de... Vous sentez ça dans un certain milieu du moins, pas le public.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de grands shows comme Carpentier, non. Ouais. Parce que bon, ça n'existera plus parce qu'il n'y a plus les Carpentiers. On avait un peu plus de moyens. Et là maintenant, les shows de variété, je ne sais pas si ça existe. Par contre, tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne. Il y a des grands shows.
Ah oui,
je peux vous dire que c'est extraordinaire.
Alors, Mireille Mathieu, autre chose, évidemment, on le sait, Johnny Stark nous a quittés il y a déjà longtemps maintenant. Mmh. Alors,
en 89.
En 89, vous disiez que tout s'était construit autour de lui. Mmh. Comment est-ce que vous avez reconstruit d'une certaine façon votre vie, votre travail sans Johnny Stark?
Ça n'a pas été évident. Et ça a été vraiment terrible pour moi. Heureusement que j'avais ma sœur Matite à mes côtés, qui est mon manager.
Mais Matite
non plus, il a fallu aussi qu'elle aussi apprenne des choses. Parce qu'on s'est vu confrontés avec des choses pas faciles à expliquer, plein de problèmes que j'ai dû assumer.
Vous étiez plus obligé de décider vous-même d'une certaine façon.
Oui, mais avec Johnny, il me demandait. Mais là, c'était repartir à zéro parce que Johnny était entouré de personnes qui, enfin, je n'irai pas plus loin, mais qui le trahissait, qui mentait, et la même chose pour moi. Donc il a fallu repartir à zéro, quand je dis à zéro avec ma sœur. Mais entre-temps, j'avais fait un album de langue espagnole. Donc je suis partie en Espagne faire la promotion. Et après, on est revenu en France. Je n'ai jamais oublié la France, mais ça a été extrêmement difficile pour moi, c'est vrai.
Voilà, mais finalement, tout se passe bien,
oui,
on le voit,
se passe bien.
Avec vos succès qui s'enchaînent. Tiens, avant de revenir à votre disque classique pour lequel vous êtes là aujourd'hui, on va écouter encore un petit bout d'un autre succès que j'adore et que notre Stéphane Grand de France Musique adore aussi. Ça s'appelle « Mille colombes », c'est de 1977. Oui. Et on retrouve, voilà, deux noms que vous avez cités, Eddie Barnet, grand parolier.
Alors, je voudrais vous dire une anecdote, et ça fera plaisir à Eddie s'il nous entend. C'est une chanson allemande,
oui.
Et Eddie, quand
avec
il entend...
Christian Brun, encore
oui,
d'ailleurs.
Oui, encore Christian Brun. Quand il a entendu, il a dit « Cette chanson, je la vois avec des enfants. Une chanson sur la paix. » Et dernièrement au Liban, on demande à 200 et quelques élèves « Pour vous, citer trois chansons sur la paix. » Et la première était « Mille colombes ». La deuxième, « What's a wonderful world ». Et la troisième, c'est une artiste libanaise, Férouz, que j'ai fait venir au Cholet des Carpentiers, qui est une amie, une grande chanteuse.
C'est nous. Et demain
Mireille Mathieu en 1977.
Avec les petits chanteurs de la Croix de Bois.
Ce sont les petits chanteurs à la Croix de Bois.
Ce sont des merveilleux professionnels. Ils parcourent le monde, on ne le dit pas assez, ils parcourent le monde avec leur voix d'ange.
Et vous êtes là avec nous ce matin, Mireille Mathieu, à l'occasion de la sortie de votre disque Mes Classiques. Alors je voudrais qu'on revienne évidemment, avant de se quitter, un peu à la musique classique. Et d'abord, on a vu, il y a l'influence de votre père, mais il y a eu aussi une très grande dame de l'opéra que vous êtes allé voir déjà depuis pas mal d'années, qui s'appelle Jeanine Reiss, qu'on avait reçue ici même, qui a été la grande chef de chant de l'Opéra de Paris.
Ah oui.
Et vous la connaissez bien?
Alors oui, oh, je connais bien Madame Jeanine Reiss, Jeanine. Alors il faut quand même que je vous raconte la première fois. Je l'ai rencontrée donc chez elle, mais elle me dit, mademoiselle, vous voulez travailler avec moi? Mais je ne veux pas travailler avec vous. Je dis, si madame, je vous en supplie, je veux travailler avec vous. Alors j'ai trouvé un argument qui a été convaincant, me semble-t-il. Je lui ai dit, écoutez madame, quand on enregistre des disques l'après-midi, les musiciens, les violons, sont les premiers violons de l'Opéra de Paris.
Oui, toujours. Donc, dans les studios, c'était une tradition.
Hein. Et le soir, ils interprètent Carmen.
Ouais.
Donc, ce que vous allez m'apprendre, je vais me l'approprier à mon propre répertoire. Je vais enregistrer tout ce que vous allez me dire. Et je crois que j'ai le convaincu comme ça. Et on a commencé à travailler, faire des vocalises. J'ai travaillé un peu Poulenc avec elle, Donizetti.
Poulenc.
Oui, Poulenc, Le chemin de l'amour.
Le chemin de l'amour.
D'accord, on a travaillé, j'écoutais. C'est une très, très grande dame. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Peu avant que je ne parte enregistrer mes classiques à Prague, j'ai voulu avoir son avis, j'ai travaillé un peu avec elle. Et c'était une chose importante pour moi chaque fois que je me produisais à l'Olympia. Elle venait, le lendemain, je l'appelais Jeanine, dites-moi, est-ce que j'étais bien? N'ayez pas peur de me dire si c'était pas bien, j'ai pas peur. C'est important de savoir, d'avoir votre avis, si j'étais bien. Parce que c'était ce que j'aime avec Jeanine, travailler avec les plus grands chanteurs d'opéra.
Bien sûr, bien sûr.
Surtout, j'entendais Roger Romandi, Teresa Berganza. Pour moi, c'était extraordinaire d'écouter. Après, je les ai vus sur l'Opéra Garnier.
Voir des opéras.
Pas assez, mais à l'Opéra Garnier, j'ai vu Carmen, la Bohème, avec Placido, c'était Carmen avec Ruggiero, Teresa Berganza, c'était extraordinaire.
Et revenons d'ailleurs, avant de réécouter votre nouveau disque, justement, vous avez fait quelques duos, hein, et vous avez eu quelques moments médiatiques ou amicaux avec quelques-uns de ces grands artistes, il y a eu Pavarotti notamment.
Pavarotti, mais je n'ai pas chanté avec Monsieur Pavarotti.
Non, mais vous vous êtes rencontrés.
Je l'ai rencontré, bien sûr, à l'Opéra.
Voilà.
Placido Domingo, bien
et
sûr.
Et puis Placido Domingo, vous avez chanté, voilà.
Oui, j'ai chanté avec lui une chanson de Michel Legrand au Grand Échiquier et aussi également au Mexique. Nous avons interprété pour la télévision une sorte de comédie musicale comme le Magicien d'Oz, vous voyez.
Oui.
Donc ça a été, on a tourné ensemble dans la langue espagnole, anglaise, et après ça a été en français. Donc ça a été l'adaptation, on l'a faite en français à New York. Mais ça a été aussi, chaque fois, je le dis, c'est gratifiant et enrichissant.
Voilà, et là, on va vous retrouver justement, je crois que c'est au Grand Échiquier, c'est Michel Legrand qui dirige l'orchestre, et vous êtes donc, on va en écouter au moins un petit peu, Tous mes rêves, la chanson de Michel Legrand, Mireille Mathieu et Placido Domingo.
Tous mes rêves les plus insensés, je crois que c'est ça.
Tous mes rêves,
il est plus grand que tous mes rêves. Ce bonheur s'offre à nous.
Il
est plus fort que tous mes rêves. Plus
inoubliable.
Bien de nous montrer de son joie. Placido, quelle voix. Oh là, chanter ça, j'entends ça avec Placido, je peux te dire que je n'ai pas dormi pendant des jours et des jours pour apprendre.
C'est vrai.
Parce que chanter du Michel Legrand, c'est
ça,
pas une chose
facile. Ça, on connaît bien le style de Michel Legrand aussi, d'ailleurs.
Là, je ne vous raconte pas. En plus, je chante pas avec Placido. Hein.
Et c'est Placido, donc c'est un ami, alors.
Ah oui, c'est un ami, bien sûr.
Ah oui. Mais au fond, le classique, ça vous a toujours titillé un petit peu, Mireille Mathieu.
Peut-être que ça m'a rendu compte, parce que comme j'étais bercée toute petite par ça, donc c'était dans mes veines, c'était dans que c'est quelque chose, et que bon, j'ai pu le réaliser en 2015, et je le dédie à ma petite maman avant qu'elle ne parte. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important.
Très
pour
important.
Moi.
Avec ce disque donc, qui sort, on a évoqué tout à l'heure
il y a une
partie
18
du programme, titres. La romance de Maître Patelin, Les Francs. Plus personne ne connaît ça aujourd'hui, mais la génération de votre mère, c'était encore un grand tube d'opéra.
Mon papa lui chantait tous les jours la romance de Maître Patelin.
De Bazin, voilà.
Voilà, de Bazin. C'est l'opéra comique, c'est une belle histoire d'amour.
Oui.
Et il y a Mozart, il y a Handel, il y a Brahms, il y a Fauré. Il y a Fauré.
Absolument. Après un rêve, célèbre mélodie de Fauré que vous reprenez ici dans une version d'orchestre. Il y a le Tchaïkovski, le concerto, mais en version russe et française.
Tchaïkovski, concerto numéro 1 de Tchaïkovski. Il y a aussi Tárrega, qui est un grand guitariste classique moderne. Il y a aussi Amazing Grace, c'est de Thomas More, qui a écrit un des plus beaux cantiques chrétiens, qui est magnifique.
Mais alors ce disque, Mireille Mathieu, il est destiné à être donné aussi en scène, ou c'est plutôt vraiment là pour le coup un travail de studio?
Si, non, je l'ai fait d'abord en studio pour moi à Prague. Par exemple, il y a aussi, j'ai oublié, une merveilleuse mélodie irlandaise que j'interprète sur scène aussi.
Voilà, il y a certains morceaux.
Schubert
vont...
aussi, bon, là c'est l'Ave Maria de Schubert, mais j'interprète une autre mélodie qui s'appelle Die der Liebe de Schubert sur scène. Et c'est magnifique, j'ai eu l'opportunité de me produire à Hambourg Elbphilharmonie.
Ouais.
Ça a été quelque chose d'extraordinaire.
Donc vous allez truffer maintenant vos récitals de quelques morceaux classiques.
Je ne sais pas, peut-être, oui.
Puisque ce disque a un tel succès.
C'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. Vous savez, quand j'ai eu fini cet album, donc on l'a enregistré musicalement en février 2017 et j'ai enregistré en juillet 2017. Et quand on a eu fini, j'ai dit à ma sœur, quand c'est que j'enregistre encore à nouveau? Elle m'a dit, on vient de finir. Oh, bah, bon, mais moi, je suis heureusement enregistrée parce que c'est extraordinaire d'enregistrer à Prague.
Ouais.
Parce que quand on voit avec les chœurs, ça fait 92 musiciens. Vous voyez ces musiciens, mais comme ils jouent, on est dans la cabine de son et vous êtes complètement scotché et d'émotion. Alors, évidemment, à 3 ans, ils ont un violon dans les mains. Alors, ça, c'est quelque chose qui vous prend. On a une émotion intense, des pleurs, on pleure parce que c'est quelque chose, c'est comme une mer, des larmes de pluie, voilà.
On va vous écouter tout de suite, Mireille Mathieu, dans La valse des regrets, sur une musique que tout le monde va reconnaître, évidemment, de Johannes Brahms.
Descend, que le soleil disparaît, la nostalgie aux yeux de pluie te donne rendez-vous secret. Elle est plus fidèle que tes amis les plus vrais, et son violon joue sa chanson. Voici la valse des regrets. L'automne qui t'abandonne à ta mémoire, à tes histoires d'amours anciennes, aux sources de tes peines. Quand tu fais semblant de n'avoir plus d'intérêt pour l'avenir, tes souvenirs te jouent la valse. Tes blessures comme une caresse à ta détresse. C'est la rumeur des illusions qui meurent, même quand tes problèmes se font un peu plus discrets. La nuit rebelle vient de plus belle jouer la valse des regrets. Et c'est la ronde des peurs, des ombres, des âmes qui se sont enfuies. C'est la rengaine des adieux qui s'égrènent. Mais la vie jamais n'oublie ce qu'elle promet. Va bientôt tourner le dos à la mélodie des regrets. Une étincelle tombée du ciel va ranimer, va rallumer ton cœur qui danse, tes rêves d'espérance. Quand le soir descend, il faut lui dire et après, le jour s'apprête, c'est une fête, fini la valse des regrets.
Magnifique.
Oui, c'est beau.
Le texte est de Claude Lemel.
Claude Lemel qui l'a écrit spécialement pour votre disque, Mireille
oui,
Mathieu.
Oui, tous les textes français sont écrits par Claude, qui est féru d'opéra.
Oui.
On s'est rencontrés, c'est une complicité, on a parlé parce que aussi écrire Tchaïkovski, c'est pas évident, le thème, le concerto numéro 1. Il a très bien, c'est un grand auteur. Et la valse des regrets, Brahms l'a écrit pour Clara Schumann. Donc c'était une grande histoire d'amour parce qu'il était amoureux de Clara. Ouais. Donc voilà, c'est sublime, Brahms.
Voilà,
aussi.
Et c'est dans votre dernier disque, Mes Classiques, vous nous avez dit
Mes
que.
Mes Classiques, double vinyle, et il y a 18 titres.
Et à peine terminé, vous pensiez déjà, vous nous l'avez dit à l'instant, au disque suivant. J'ai l'impression, Mireille Mathieu, qu'au fond, vous avez, ça me rappelle d'autres artistes que j'avais reçus ici, un peu comme Annie Cordy, par exemple, vous avez consacré toute votre vie à votre travail de chanteuse.
J'ai la chance, tout à l'heure, je vous ai dit, de vivre de ma passion
et
j'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais. Il y a toujours quelque chose à apprendre, rien n'est acquis. C'est ça qui est bien. Moi, en plus, je ne connais pas la musique. Donc, avec mon chef d'orchestre, Thierry Bien-Aimé, j'ai travaillé tous les jours. Tous les jours, j'écoutais, j'enregistrais, je l'appelais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est formidable.
Mais ça vous arrive de prendre une journée pour aller juste vous promener ou rester chez vous tranquille
Moi, je sors très, très peu, mais je suis avec mes amis, avec les personnes.
C'est pas seulement
que j'aime.
le travail.
Mais j'aime ce que je fais.
Oui.
Et alors, donc, bon, quand je voyage, je rencontre public de couches sociales différentes. Ce public à qui je dois tout, je dois énormément. Là, en ce moment, on est tous en travail pour se céder. Et je croisais les doigts, j'espère encore être numéro un. Remercier ma sœur. Remercier ma maison de disques Sony, Balou qui est au côté, mon chef d'orchestre, tous les musiciens, Thierry Bien-Aimé parce qu'il a vraiment œuvré. Et je me suis aperçue, vous voyez, je vais vous dire une chose, j'ai fait des télévisions, des JT, mais toutes les télévisions où je pouvais chanter, je chantais en direct.
Ouais.
Et le public apprécie parce qu'ils savent. Et je voudrais aussi saluer les gens du Nord qui nous écoutent parce que je fais très peu de dédicaces. J'en ai fait une à Lille et je peux vous dire que les gens du Nord, c'est extraordinaire.
Alors, en tout cas, Mireille Mathieu, moi, ce que je
vive
vois,
c'est... Vive le Nord et vive la France.
Vive le Nord, vive la France, vive Mireille Mathieu. On n'a pas eu le temps du tout de tout épuiser. Je crois qu'il va falloir que vous reveniez un jour, si vous voulez bien.
Ah non, je peux revenir avec plaisir.
ça me fera plaisir aussi. Parce que, par exemple, tiens, pour terminer, on n'a pas du tout évoqué votre amour de la comédie musicale. Et pourtant, c'est bizarre, vous n'en avez jamais fait, mais... Vous adorez ça?
Oh, j'ai eu la chance de connaître West Side Story.
Voilà.
J'ai failli en faire une, mais ça n'a pas pu se concrétiser. Mais j'aime les musicales parce qu'on chante en direct, on danse, on sait tout faire, ce que font les anglo-saxons, qui savent faire. Et il n'y a pas de secret, quand on les voit sur scène, ça marche, c'est un triomphe, ça dure 4-5 ans, c'est extraordinaire.
Alors on se quitte joyeusement avec Maria dans West Side Story.
Si vous
voulez. I'll Feel Pretty, ça vous va?
Très très bien.
Merci beaucoup d'avoir
Merci
été avec
reçu.
Nous ce matin, Mireille
Merci
Mathieu.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I heart
believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy.
Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? Than me, did you see her? She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane.
La, la, la.
She isn't in love, she's merely insane.
It must be the heat,
or some rare disease.
La, la, la.
Or too much to eat,
or maybe it's please.
West Side Story, un choix de mon invité, I Feel Pretty. Et ben oui, nous aussi, nous nous sentons bien grâce à cet entretien très sympathique avec Mireille Mathieu à l'occasion de la sortie de son nouveau disque Mes Classiques, qui vient de paraître chez Sony Music. Un morceau dans lequel donc vous retrouverez évidemment toutes ces chansons, ces grands airs classiques revisités par Claude Lemel, Mireille Mathieu et tous ces musiciens.
Thank you.
Mouliné Polka, une ravissante création évidemment de Monsieur Strauss sous la direction de Zubin Mehta. Et puis tiens, j'en profite aussi pour remercier les auditeurs vigilants qui me signalent à juste titre que le film L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune était de Jacques Demy et non pas de Claude Lelouch, comme nous l'avons dit tout à l'heure au cours de notre entretien.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et nous allons terminer l'émission avec une musique sans doute un petit peu moins joyeuse, mais tellement belle, pour rendre hommage à l'homme qui serait né aujourd'hui, il y a exactement 100 ans, le 8 décembre 1918. Il nous a quittés en 2004. C'était Gérard Souzet, un des plus grands chanteurs, un des plus grands interprètes de la mélodie française. Et je vous propose de nous quitter avec cet enregistrement que j'adore. Il est avec Jean-Michel Damaz au piano, dans ces deux pages extraites de L'horizon chimérique de Gabriel Fauré.
La mer est infinie et mes rêves sont fous. La mer chante au soleil en battant les falaises. Et mes rêves légers ne se sentent plus d'aise de danser sur la mer comme des oiseaux sous. Le vaste mouvement des vagues les emporte. La brise les agite et les roule en ses plis. Jouant dans le sillage, ils feront une escorte au vaisseau que mon cœur dans leur fuite a suivi. Ivre d'air et de sel et brûlé par l'écume de la mer qui console et qui lave les pleurs, ils connaîtront bonne amertume. Les goélands perdus les prendront pour des leurs. Je me suis embarqué balance. Mes pieds ont oublié la terre et ses chemins. Les vagues souffles m'ont appris d'autres cadences plus belles que le rythme là des chants humains. brûle plus mes yeux. Je ne me souviens pas de mes derniers adieux. Oh, ma peine, ma peine. Thank you.
Merveilleux enregistrement de l'horizon chimérique de Gabriel Fauré sur les poèmes de Jean de la Ville de Miremont, un enregistrement de 1946 avec le compositeur Jean-Michel Damaz au piano et puis la voix extraordinaire de Gérard Souzé, Gérard Souzé qui aurait eu aujourd'hui précisément 100 ans. Et c'est ainsi que s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Alex Billard et François Davy, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, nous parlerons de l'opérette Azor avec mes deux invités, le grand organiste de jazz Emmanuel Bex et l'excellent acteur-chanteur Pierre Méchanic. Voilà, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.